C'est Platon Malin sur RCN, Margot Gross.
À tous, vous êtes sur RCN et vous écoutez Fait Platon Malin, votre émission consacrée à la philosophie et au cinéma que j'anime un jeudi sur deux de 14h à 14h30. Et aujourd'hui, on est avec Jennifer Blanc, volontaire service civique dans une école primaire. On va parler du film de science-fiction Avatar, sorti en 2009 et le deuxième en 2022, réalisé par James Cameron.
RCN Fait Platon Malin, Margot Gross.
Salut Jennifer, comment ça va ?
Salut, ça va, merci, et toi ?
Super. On se connaît vite fait, de visu, comme ça.
Très vite fait, oui.
Juste depuis la maternelle.
À peine.
C'est la première fois que tu viens dans nos locaux, on est très contents de te recevoir aujourd'hui.
Et merci de me recevoir.
Et pour commencer, on sait que Avatar, c'est un film que beaucoup de gens ont vu, le premier comme le deux. Mais est-ce que tu peux nous rappeler, en tout cas rappeler aux auditeurs, de quoi parle le film ?
Alors bien sûr, Avatar, pour le moment, c'est deux films, dont le premier est sorti, comme tu l'as dit tout à l'heure, en 2009, et le second, il est sorti fin d'année dernière, donc en 2022. C'est des films de science-fiction réalisés par James Cameron.
Ouais.
Et dans cette histoire, ces deux histoires, on suit principalement l'histoire aux côtés du personnage principal, qui est Jake Sully, un militaire de l'armée américaine qui est envoyé en mission sur la planète Pandora afin d'infiltrer en quelque sorte la population Na'vi pour les exterminer, car ils sont considérés comme une menace par les êtres humains. Et au fil de l'histoire, on va voir qu'il va se lier d'amitié, d'amour et d'autres relations avec ces Na'vi. Et il va venir au fait d'arrêter, comme il le peut, la mission pour laquelle il avait été principalement envoyé.
Donc tu as regardé ce film pour la préparation de l'émission, tu connaissais avant ?
Je connaissais avant, oui.
Avatar, on le rappelle, c'est un film qui montre des images de la nature qui sont juste à couper le souffle. Est-ce que pour toi, c'est une façon qu'a James Cameron de défendre quelque part l'environnement, l'écologie ?
Je pense que oui, c'est une façon pour lui de dénoncer l'impact qu'a l'homme d'ailleurs sur l'environnement, parce que quand on peut le voir dans le film, il y a des images, que ce soit les paysages, bien qu'ils soient fictifs, qui sont vraiment à couper le souffle. Et je pense que c'est une façon de montrer à quel point la nature est magnifique dans son état originel, et que quand l'homme passe par là, qu'il la détruit pour la mettre à son propre profit, pour y construire sa vie, je pense oui, c'est pour dénoncer ce que l'homme fait à la nature en soi.
Ouais, je sais qu'il expliquait dans une interview qu'il voulait faire rêver les spectateurs avec des images pour leur faire prendre conscience de la beauté de la nature et ses pouvoirs. Dans ce monde de science-fiction, dans Avatar, que ce soit dans le 1 ou le 2, on voit justement une opposition entre la population Na'vi et les humains qui ont rejoint la planète Pandora pour coloniser leur terre et en tirer du profit. Moi, ça me fait un peu penser, quelque part, à un parallèle qu'on pourrait faire avec ce qui s'est passé dans les faits historiques avec les Européens dans le 15e, 16e siècle, qui sont partis coloniser, justement, l'Amérique. Est-ce que pour toi, c'est une coïncidence ou c'est un scénario qui a été écrit, justement, dans le but de refléter la réalité ?
Pour moi, ce serait trop gros pour que ce soit une simple coïncidence. Et je pense que, comme tu le dis, c'est un scénario qui a été très réfléchi à ce niveau-là pour refléter, justement, les faits historiques qui se sont passés. Et dans ce cas-là, on pourrait faire une sorte de mise en parallèle avec un livre, La controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière, qui d'ailleurs dans ce livre, on se pose la question de si les Indiens ont une âme ou non. Et là, c'est un peu la même question qu'on peut se poser avec les Na'vi. Est-ce qu'ils peuvent être considérés comme des êtres humains, comme des êtres humains? Est-ce qu'ils ont une âme ou pas? Est-ce qu'ils sont vraiment comme les hommes ou bien c'est comme les Indiens, comme ils ont été traités à l'époque en soi?
Et à l'époque, justement, on considérait ces personnes dont on a colonisé les terres, on les considérait comme des barbares, c'est ça ?
Tout à fait, oui.
Justement, il y a Montaigne qui a beaucoup défendu ce que les Européens considéraient comme des sauvages ou des barbares. Lui, à l'inverse, il me semble qu'il défendait plutôt l'idée que les Amérindiens étaient une population comme une autre, simplement avec des coutumes différentes et une manière de vivre aussi différente. Et il disait « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage ». Est-ce que pour toi, ça symbolise quelque part une dénonciation de ce qu'on pourrait appeler l'ethnocentrisme des humains ?
Oui, en sorte, on pourrait appeler ça comme ça. D'ailleurs, pour rappeler l'ethnocentrisme, si on peut donner une petite définition, C'est se centrer sur sa propre culture et considérer toute autre culture que la sienne comme étant... considérer sa culture à soi étant universelle. Donc oui, étant donné que les hommes, ils arrivent sur Pandora et que pour eux, il n'y a que leur culture humaine, comme ils font face à un tout autre environnement et une culture complètement différente de la leur, ils considèrent les Navis comme des barbares.
On voit dans Avatar, la Voix de l'eau, que l'armée américaine vient d'abord pour détruire la planète Pandora, mais aussi pour tuer certains animaux marins et en extraire ce qu'ils appellent un élixir anti-vieillesse qui sert justement à stopper le vieillissement. Pour toi, c'est légitime de la part des humains ou c'est au contraire un peu démesuré, on pourrait dire ?
Je pense que ça peut être démesuré, ça pourrait en aucun cas être légitime, bien que ce soit pour leur propre bien, genre l'élixir pour devenir moins vieux, enfin vieillir moins rapidement du coup. Ça pourrait toute part s'apparenter à la chasse aux baleines, qui peut, dans notre vrai monde.
Ouais, la chasse à la baleine, du coup, ça a vraiment existé, c'est ça ?
Oui.
Et c'est comment tu interprètes ce commerce qui a été fait à partir des baleines Comment tu l'as vu en fait dans Avatar, toi ?
Encore une fois, on pourrait apparenter ça à un autre livre, Moby Dick, de Herman Melville. Et ça me fait vraiment penser à ce qu'ils font dans Avatar le 2, avec les animaux aquatiques, les Tulkun.
Ouais.
Ça peut s'apparenter à ce qu'ils font dans les baleines dans Moby Dick, qu'ils les chassent pour leur propre profit, parfois même par vengeance, pour, encore une fois, une question d'hubris de la part de l'homme.
Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est aux auditeurs, ce que c'est l'hubris ?
Ah, c'est la démesure de l'homme en soi.
Ouais, c'est aussi, il me semble, l'orgueil, tout ce qui se réfère aussi à la mythologie grecque, c'est ça ?
Mm-hmm.
Est-ce que tu as un exemple de l'hubris, par exemple, dans la mythologie grecque ?
Alors oui, j'ai un exemple pour toi. Je peux raconter
ouais,
la petite histoire ?
Vas-y, je te laisse.
Alors dans la mythologie grecque, nous avons Icare qui a
ouais.
été enfermé dans un labyrinthe et il a voulu se surpasser son état d'homme, si je puis dire ça comme ça. Et avec ses ailes, il a voulu s'enfuir du labyrinthe, sauf qu'il a volé trop près du soleil et qu'il s'en est brûlé les ailes, d'où l'expression. Donc ça montre qu'il a voulu dépasser son état d'homme originel, se rapprocher d'un état divin, mais on ne peut pas dépasser sa nature d'homme.
L'expression, du coup, se brûler les ailes, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Dans un instant, Jennifer, tu restes avec nous sur RCN et on parlera des autres thèmes qu'évoque le film Avatar et comment il s'illustre. Mais tout de suite, on écoute The Weeknd, Nothing is Lost.
Protect you from paying for my sins. And I've been walking this earth long enough that death's a gift. Been living this life so patient. We'll be right back.
écoutez Platon Malin sur RCN, Margot Gross.
C'était Nothing is Lost à l'instant sur RCN. On est toujours avec Jennifer Blanc, volontaire en service civique dans une école primaire en Moselle. Vive la Moselle! Tu es venue nous parler aujourd'hui du film de science-fiction Avatar. On disait tout à l'heure que c'était notamment un film dans lequel la thématique de l'humain et son rapport à la nature est très présente. On disait justement tout à l'heure que dans la mythologie grecque, le personnage d'Icare se brûle les ailes en survolant de trop près la Terre avec le soleil. Est-ce que pour toi c'est aussi une façon de dire que en tout cas l'armée américaine dans le film c'est quelque part aussi un peu brûler les ailes en voulant tout détruire comme ça?
Justement, ça me fait penser à une partie de ce film. On voit qu'ils vont attaquer justement la population Navi. Et comme les Navi sont dans leur environnement avec la nature, les armes qu'ils connaissent, ils arrivent à détruire l'armée américaine alors que eux, en termes d'équipement, ils sont beaucoup plus avancés que la population Navi.
Et la population Navi, justement, n'est pas du tout dotée de technologie. Elle est très, très proche de la nature. Est-ce que pour toi, en tant qu'humain dans le monde réel, on devrait se rapprocher de ce genre de mode de vie qu'ont les Navi? Parce que quand même, on le voit dans le film, ils ont un mode de vie très, très simple et au plus proche de la nature.
Ça pourrait être une solution. Après, on pourrait envisager deux perspectives par rapport à ta question.
Ouais.
Ça pourrait être une solution car on pourrait comprendre leur mode de fonctionnement, leur culture, donc se rapprocher de comment ils vivent eux. Mais d'un autre côté, ce serait comme régresser pour l'homme, car à l'heure actuelle, on est tellement avancé sur tous les fronts que ce serait reculer en soi. Donc ça pourrait être deux perspectives différentes.
On est avancé, c'est vrai. Dans notre réalité, est-ce que pour toi, c'est pas aussi le fait qu'on soit avancé, ça apporte aussi des dangers quelque part avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Ça apporte des avantages comme des inconvénients.
Oui, ça nous détache de la nature.
Est-ce que dans le monde des Navi, par exemple, toi, tu vois des inconvénients, des choses qui font qu'on ne pourrait pas retourner à ce mode de vie-là?
C'est la primarité?
Le fait qu'ils soient très primaires.
Très, très primaires, oui. Ils vivent avec très peu. Ils vivent avec que le strict nécessaire.
Ouais,
je pense pas que ce serait forcément possible pour nous de vivre avec rien comme eux, ils le vivent. Donc ce serait assez compliqué pour nous. On est tellement habitué à la technologie, on est né dans la technologie. Donc je pense pas que ce serait quelque chose de possible pour nous de vivre comme eux le vivent.
Ouais, exactement. Dans Avatar, on disait qu'il y avait ce parallèle entre les Tulkun et les baleines. Qu'est-ce que pour toi, les Tulkun, ça représente, en tout cas pour les Navi, j'ai l'impression qu'ils sont très connectés à eux. Pour toi, c'est quoi comme lien?
Je crois que dans le film, si je dis pas de bêtises, c'est leur âme sœur, eux qui sont connectés. Ils ont un lien très très fort, donc c'est pour ça qu'ils ont un rapport à la nature extrêmement proche, beaucoup plus que ce que les hommes ont.
Et ils cherchent justement ce lien avec la nature. Pour toi, ça leur apporte quoi de plus que par exemple, nous, notre technologie, par exemple?
Alors là, c'est une bonne question.
Parce que je sais que ça leur permet aussi de vivre la nature. Enfin, ils dorment dans la nature, ils vivent dans la nature, ils font tout dans la nature. Qu'est-ce que ça apporte de plus que nous, par exemple, de dormir dans un lit, de s'habiller avec des vêtements? En fait, la civilisation, qu'est-ce que ça leur apporte? Le fait de justement ne pas vivre dans la civilisation où nous, on vit.
Je trouve que ça leur apporte le fait qu'ils respectent plus la nature que nous, comment on la traite, vu qu'ils n'ont jamais connu la technologie, comment nous, on la connaît. Donc, ils ont ce rapport très, très proche avec la nature, donc ce qui fait qu'ils la respectent.
Pour toi, ils ont une certaine conscience de l'impact de tout ce qui est environnement, ils respectent la nature, c'est
ça ? Oui, tout à fait.
Et nous, comparé à eux, on est peut-être justement sur ce point-là moins avancé qu'eux, c'est ça ?
On a tellement progressé que même si à l'heure actuelle, on peut faire attention à nos modes de consommation, l'impact qu'on a sur l'environnement, c'est quand même très compliqué de la respecter autant qu'eux le font dans le film avec la population Navi.
Est-ce que c'est pas aussi à travers Avatar un symbole, quelque part, de la corruption de l'homme ?
Encore une fois, une question assez compliquée à répondre. Je dirais que oui, ça montre que l'homme est corrompu vu qu'il vient sur une terre qui n'est pas la sienne pour en tirer ses propres pour en tirer la détruire juste pour son profit à lui.
Et c'est justement Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une faiblesse de l'homme de justement être attiré seulement par le profit, seulement de venir tout détruire comme ça pour leur propre profit en fait ?
Malheureusement, c'est ce qui définit un peu l'homme en soi. Parce que parfois, il est tellement rattrapé par son propre ego qu'il peut même plus se contrôler à ce niveau-là. Encore l'hubris, encore une fois.
Pour toi, c'est une histoire d'ego, cette façon qu'a l'homme de vouloir à tout prix chercher les terres des autres populations, même si ils y sont attachés à ces terres.
Ça se montre dans le film, vu qu'il est, il pense, l'homme, quand il arrive sur Pandora, il pense qu'à lui, à l'argent qu'il va faire, à ce que ça va lui rapporter sur Terre, et il pense pas au mal qu'il va faire à la population Navi en soi.
Et quelque part, il réfléchit pas, il y va tête baissée sans penser aux conséquences.
Ah oui, c'est non, ça c'est sûr, oui.
Dans le film, y a certains penseurs qui se sont penchés sur la question très vaste de ce qu'est l'humanité, comment on la définit. Est-ce que là, tu as une rêve qui te vient en tête comme ça, qui traite justement de cette thématique de savoir si les navis peuvent être considérés comme des hommes ?
Alors là, comme référent, je pourrais te dire Les animaux dénaturés de Vercors.
C'est un roman, c'est ça ?
C'est un roman, tout à fait, oui.
Et qu'est-ce que tu pourrais dire, en fait, sur les animaux dénaturés de Vercors ? Parce que finalement, peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est plutôt est-ce que les humains sont eux-mêmes des animaux ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ça ?
On pourrait faire un parallèle entre le livre et le film.
Ouais.
Parce que dans le livre, on se demande si les tropies sont des humains.
Les tropies qui sont une espèce de singe, c'est ça ?
Oui, voilà, tout à fait. On pourrait aussi se demander dans le livre si les hommes sont vraiment des hommes ou bien est-ce qu'ils sont des animaux. Donc ça fait déjà un mélange entre les deux-là. Et dans le film, on se demande si les navis peuvent être considérés comme des hommes ou des animaux. Et pareil pour les hommes comme dans le livre, si les hommes sont vraiment des hommes ou s'ils se comportent purement comme des animaux.
Je vous propose de continuer en musique avec la bande-son d'Avatar par James Horner.
RCN fait Platon Malin, Margot Grosse.
C'était la bande-son d'Avatar par James Horner à l'instant sur RCN. On est toujours avec Jennifer Blanc. Tu es volontaire en service civique dans une école et un de tes passe-temps, c'est la philo. Et aujourd'hui, tu es venue nous parler. Tu nous parles justement du film Avatar pour nous donner certains éléments d'analyse philosophique. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'armée américaine représentait un peu la démesure dans le film Avatar. Et on parlait du roman Les animaux dénaturés qui a été écrit par Vercors. Ce qu'on disait, c'est que finalement, la question qu'on devrait se poser, c'est peut-être plutôt est-ce que les humains sont eux-mêmes des animaux ? Est-ce que tu sais un petit peu la réponse que donne Vercors dans ce roman ? Est-ce que pour lui, nous, on est des animaux ? Est-ce qu'on est des humains ? Comment tu interprètes ça ?
Je pense que la réponse, ta réflexion, elle peut être nuancée vis-à-vis de ça. Mais quand on voit, que ce soit dans le film ou dans le roman de Vercors, on est des animaux dénaturés.
Par la civilisation, tu penses ? Par le
fait
que...
la civilisation, oui. Ouais. C'est un peu une sorte d'aliénation.
Ouais, tu penses que on est un petit peu dépossédé par toute cette civilisation. Enfin, pour toi, ça représente quoi la civilisation ? Comment ça s'illustre ? Est-ce que c'est, par exemple, le fait de vivre dans une maison, d'avoir un certain confort ?
Oui, le progrès technique en général. Comme tu dis, le fait de vivre dans une maison, d'avoir toute la technologie qui nous entoure.
De porter des
vêtements.
De ne pas
vivre dans une cabane, dans la forêt, enfin, ce genre de choses.
Ce monde fictif, il est possible grâce aux machines, à la technologie, les robots qui sont utilisés pour détruire. Tout ça, c'est possible grâce à cette technologie qu'on a, nous, êtres humains. Est-ce que pour toi, si l'armée américaine dans ce film n'avait pas eu accès à toute cette technologie, est-ce qu'elle aurait tout ravagé, tout détruit quand même ? Ou tu penses que ça serait passé différemment ?
Je pense que les conséquences auraient été moindres du fait qu'ils auraient eu moins de moyens. Mais je pense qu'ils auraient quand même eu tout mis en œuvre pour détruire et pour arriver à leur fin.
Est-ce que, pour toi, c'est pas un peu une représentation qu'on pourrait dire manichéenne, dans le sens où c'est un peu une opposition entre les gentils, les méchants, donc les gentils, les navis qui vivent tranquillement sur leur terre, les méchants, l'armée américaine qui viennent tout ravager sur leur passage. Est-ce que pour toi, c'est une vision simpliste ou c'est une vision qui a une part de réalité aussi ?
Je dirais que c'est une vision qui a une part de réalité, mais encore une fois, ça ne peut pas être tout noir ou tout blanc. Que si on grossit la chose, comme tu dis, le camp des gentils et le camp des méchants, si on prend le camp des gentils, les navis, forcément des navis qu'on peut considérer comme gentils pour le film, il y en a quelques-uns, enfin, il y en a forcément dans l'eau qui ne vont pas être de ce côté-là. Et pareil pour les hommes. Qu'on voit tous les hommes, principalement l'armée, ils peuvent être considérés comme les méchants, mais si on voit du côté plus scientifique, ils peuvent, eux, par rapport à l'armée, être considérés comme les gentils.
On arrive presque à la fin de cette émission. Pour terminer, j'ai une dernière question, la question ultime. Oh. Est-ce que pour toi, Avatar, c'est un film qu'on pourrait considérer comme humaniste ?
Encore une fois, une question pas des moindres. Et je dirais que oui, Avatar, ça peut être un film humaniste parce que bien que les Na'vi ne soient pas des humains en soi, ça peut quand même montrer à quel point ils peuvent se rapprocher plus d'un comportement d'homme, comme on est censé l'être, si je peux dire ça comme ça, plutôt que l'homme lui-même, qui est clairement un barbare, comme on l'a évoqué tout à l'heure.
Est-ce que tu peux nous rappeler un peu, si tu sais, la définition, avec tes mots, de ce qu'est l'humanisme ?
Alors là ?
L'humanisme, ça, c'est quelque part aussi la défense de l'humanité, des biens, de ce qui est bon chez l'homme.
Mmh, tout à fait.
Merci beaucoup Jennifer, on a
merci
été très
toi.
Contents de t'avoir reçu dans nos locaux, c'était un plaisir. Merci de nous avoir écoutés, rendez-vous jeudi dans deux semaines de 14h à 14h30 pour la prochaine émission et je vous propose qu'on se quitte en musique avec Overside.
Superman.